Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Du Mexique! Et l'ouverture du score est là pour le Mexique! C'est tout le peuple mexicain! C'est tout le stade aztèque qui vibre sous nos pieds! Parce que le Mexique, dans son match d'ouverture, est devant 1-0 face à l'Afrique du Sud!
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten sans flamme. Ah oui, on est à la mode mexicaine dans Rotten sans flamme. Et oui, la Coupe du Monde, elle a débuté hier. On a vu cette belle victoire du Mexique. Du moins, belle victoire. Oui, il y a eu victoire logique. Mais comme tous les jours, on va débriefer tout ça. On va vous lancer l'actu des Bleus, l'actu des grands joueurs, des grandes nations. Il va y en avoir. Et là, ils vont jouer tout le week-end. Donc, pendant 2 heures dans Rotten sans flamme, on va se régaler avec une magnifique équipe autour de moi, comme d'habitude, et encore plus aujourd'hui, parce qu'on est au Flora, dans le 9e arrondissement, dans Paris, à la brasserie, c'est magnifique, c'est beau, il y a du monde. On parle de foot avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Bah, ravi de revenir dans ta maison pour 5 semaines.
Ah, ça y est.
La brasserie Flora, 9e arrondissement, les grands boulevards. Venez assister à Rotten sans flamme. Ce soir, il y a de la star, hein, Jérôme.
Exactement.
Ah,
il y a de la star. Bientôt changer le nom de la brasserie aussi.
Ah oui, oui. Le JR25.
Ouais, exactement.
Ah, ouais. On le sait.
Bon, il y en a un qui est ravi d'être au JR25. C'est Manu Petit. Salut Manu.
Bonjour tout le monde.
Ah, salut Manu. Manu, ça va?
Ça va et vous?
Enfin, super.
Bon.
Quoi de neuf?
Bah tout va bien.
Bon,
par contre, vous pourriez rajouter un petit drapeau du Mexique et du Canada parce que la Coupe du Monde, c'est pas simple.
Alors allez voir sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. Effectivement, nous sommes filmés et il y a le drapeau américain derrière Jérôme. Mais voilà. Jérôme, il a un physique d'américain, c'est pour ça qu'on a mis le drapeau.
Surtout un physique de radio.
Et puis,
ouais.
Ouais, bon. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Et il y en a un qui rigole aussi, c'est Soulé Diawara. Salut Soulé.
Eh ouais, salut Soulé. Salut tout le monde, salut les amis.
Ouais. Et toi, t'as un physique de quoi? De radio, de télé?
Non, d'acteur américain.
Non, d'acteur américain. Ben oui. C'est pour ça qu'il me va très bien le drapeau. Ouais, j'aime beaucoup le drapeau que tu as mis.
Bien sûr. Manu, tu l'imagines pas dans un film américain, Soulé, franchement?
Ouais, d'action ou...
Bah oui, d'action, oui. Okay. Pas d'amour.
Ah, vraiment d'action. Hein.
Vraiment.
Manu aussi, je te vois dans des films d'action.
Ouais, moi aussi. Ouais. J'en ai fait quelques-uns.
J'imagine. Oui. Et puis tu continues aussi. Ouais.
Bon.
Je sais pas où j'ai mis les cassettes.
L'événement à la Coupe du Monde se poursuit le deuxième jour dans Rotten sans flamme. Sur RMC, une émission exceptionnelle avec Jérôme Rotten, avec Manu Petit, avec Soulé Diawara et un invité exceptionnel, Jérôme, à partir de 19h, Paul Pogba.
Oh,
eh oui, la légende Paul Pogba sera avec nous à partir de 19h. On va parler de l'équipe de France, on parlera d'Mbappé, de Dembélé, de Didier Deschamps et de son avenir à lui, Paul Pogba. Est-ce qu'il va continuer le foot la saison prochaine? Vous saurez tout à partir de 19h. Les débats foot du jour dans Rotten sans flamme. À 19h30, on attend avec impatience le premier choc de cette Coupe du Monde, Jérôme, demain, dans la nuit de samedi à dimanche. Brésil-Maroc, on y est, ça y est, Brésil-Maroc. Est-ce que le Brésil est vraiment favori contre le Maroc? 32-16 pour participer au débat avec nous. Un grand Soulé à 18h30, tu te souviens du procès? Le procès de tous ceux qui pensent qu'une nation africaine ne peut pas remporter cette Coupe du Monde. Il est en colère contre vous. Alors là, attention.
Non mais attends,
il va vous attraper.
Mais ta question, elle est sournoise.
Mais
parce qu'il manque un mot en fait.
Non mais vous allez arrêter de modifier les débats.
On fait un état de fait alors qu'en fait tout le monde sait que tôt ou tard il y a une pays.
On parle de cette Coupe du Monde, Manu. C'est là qu'il va vous attraper.
T'inquiète, garde
mes forces.
Oui.
Dans 100 ans, ça va arriver.
Et puis l'actu Ligue 1 à 18h45.
Coupe du Monde à 90.
Regarde, Soulé montre les muscles, incroyable. À 18h45, l'actu de la Ligue 1 dans le Halo Jérôme. Patrick Guillot, le consultant beIN Sport, sera avec nous.
Excellent.
Il va nous présenter Dino Topmöller, le nouvel entraîneur du RC Lens. Il arrive d'Allemagne en provenance de Francfort. Vous saurez tout donc du nouveau coach lensois qui succède à Pierre Sage. Et puis l'événement sur RMC, c'est que vous gagnez tout au long de la Coupe du Monde votre prime de match. Actuellement, le montant de la prime est de 32 500 euros. Et il faut savoir qu'on ajoute 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. Vous restez bien à l'écoute. Et au moment du top inscription, vous envoyez but par SMS au 732-16. Vous avez 10 minutes pour le faire. Restez bien à l'écoute d'RMC. L'alerte va retentir dans Rotten sans flamme. Mais tout de suite, allons-y sur les bleus, les gars, parce que Deschamps a choisi la solution offensive.
Je vais t'aimer sans plus perdre un seul instant. le système de Didier Deschamps qui doit convaincre.
Alors, trois alternatives s'offrent à nous.
Je m'interdis rien, c'est la formule magique.
La sécuritaire.
D'accord.
L'équilibré ou l'offensive.
À nous de faire en sorte de maintenir cette efficacité offensive.
Ce quatuor offensif qui, sur le papier, a évidemment fière allure.
Je choisis la solution offensive.
Plus difficile à lire pour l'adversaire parce qu'ils n'ont pas des positions fixes.
On n'est pas les plus forts, mais on a battu tous nos adversaires.
Je choisis la formule offensive.
Et quand j'ai pris cette décision-là, c'est pour devenir professionnel.
Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est.
Quand Ousmane a une position différente, il faut l'intelligence de Michael pour pouvoir aussi jouer sur le côté.
Ça se jouera vraiment au couteau.
L'objectif numéro un, c'est l'équipe de France et ce que représente l'équipe de France.
Ah bah très bien, on a compris. Offensive, je choisis la solution offensive.
Des décisions qui peuvent faire plaisir, malheureusement.
J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive.
Avec grand plaisir, oui.
C'est Intégrale Coupe du Monde.
Ouais, l'hommage à Franz Michael quand même. On a appris son décès aujourd'hui, Franz Michael. 350 millions de disques vendus.
C'est incroyable.
Ah ouais, chanteur. Très aimé. Ouais,
je connais très bien.
Ouais. Bah voilà, magnifique.
Bah, vu ta tête, à mon avis, tu le connaissais pas.
Celui qui écoute dans la bande, c'est Manu. Franz Michael, t'écoutais Franz Michael.
Il sait même pas qui c'est Franz Michael.
Ah si, quand même.
Et on l'embrasse.
Ah, il est décédé.
Oui.
Paix à son âme.
Ce matin, tout à fait. Parlons donc du grand débat qui agite l'entrée en lice des Bleus mardi face au Sénégal. Ce qu'on va leur mettre aux Sénégalais. Pouah, mardi, ça va être dingue.
Oh, c'est tout droit.
Ils vont pleurer.
À 21h.
Entre Sénégal, c'est tout droit.
Ah, c'est 2002, c'est terminé.
C'est 2002, ils disaient ça.
Je pense que ça sera plus dur le deuxième match contre l'Irak. Ah, bah, mais le premier, c'est tout droit.
Ah, mais le tarif, là, c'est minimum 3 buts d'écart. C'est
le trop. Nous, on est prêts.
C'est
sur le terrain qu'on parle.
Ah, ouais, d'accord.
Soulé, je suis Cherki. Cherki, il a dit, on n'y va pas pour gagner. On les écrase.
Notamment le Sénégal.
Non, mais il a surtout parlé du Sénégal.
D'accord. L'efficacité du quatuor offensif, on a trois indiscutables. On a Mbappé, on a Olise.
Ils oublient vite, c'est ça le problème.
Dembélé, t'inquiète pas, on sera au rendez-vous. Parlons-en avec Florent Germain qui est à Boston, au plus près de l'équipe de France. Salut Flo.
Salut Benoît, salut à tous.
Salut Fraté.
Bon Flo, ça va les amis. On va en parler de ce quatuor. Parle-nous déjà du programme qui attend l'équipe de France aujourd'hui à Boston.
Alors, nouvelle séance à 21h heure française, donc 15h heure locale ici sur la côte est des États-Unis à la Bentley University. C'est pas un hasard d'ailleurs si le staff des Bleus a choisi cet horaire pour les premiers entraînements, parce que c'est à 7h-15h que débuteront les deux gros matchs de poule contre le Sénégal mardi et enfin le troisième match de groupe contre la Norvège. Donc il y a cette volonté de s'adapter à la chaleur. Il fait assez lourd, c'est pas insupportable, mais c'est quand même un paramètre à prendre en compte avec des préconisations. Boire à 4-6 litres d'eau par jour, c'est ce qui a été demandé par le staff aux joueurs. Ça peut paraître beaucoup, mais croyez-moi, quand on est comme ça plein cagnard en pleine séance, les bouteilles sont les bienvenues et les serviettes aussi glacées pour se les mettre sur la nuque. Et la suite du programme, ce sera une conférence de presse de Lucas Hernandez et de Jean-Philippe Mateta, là aussi dans le centre de presse de la Bentley University. Donc ce sera dans à peine 2 heures.
Flo, on va parler de l'équilibre de l'équipe de France dans un instant. Une certitude pour l'instant, c'est que face au Sénégal de Souley Diawara, on aura bien 4 offensifs alignés par Deschamps.
Voire 5.
Il y aura ce quatuor. Il y aura ce quatuor offensif. Alors, c'est vrai qu'il y a des positionnements à affiner, il y a des complicités à affirmer. On a beaucoup parlé de la place de Dembélé et de Mbappé. Donc ça, c'est un débat qui est parallèle. Mais en tout cas, 4 joueurs offensifs, c'est certain pour le match d'ouverture. Même si on sait, et Didier Deschamps l'a prouvé, qu'il est capable de tout changer rapidement dans une compétition si jamais ça ne colle pas, si jamais il n'est pas satisfait du match d'ouverture contre le Sénégal. Mais ça, les joueurs le savent, ils en sont conscients, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous affirme. Ils savent que Deschamps leur a demandé une contrepartie. Ok, on joue à 4 offensifs, mais cela nécessite des efforts. Et d'ailleurs, pour terminer, je me réfère à une petite phrase peut-être passée inaperçue après le match contre Lille, où il a été questionné sur le triplé de Michael Olise, Didier Deschamps. Il a répondu, et en plus, avec tous les efforts défensifs qu'il fait, ça prouve bien qu'on a là un grand joueur. Donc il a voulu insister sur sa caisse défensive aussi, alors qu'il venait de mettre un triplé et des beaux buts. C'est aussi un petit message à ses coéquipiers.
Donc Deschamps, il retient le repli défensif plutôt que le triplé.
Ah
ça,
bah,
c'est
tout
bon.
Le temps.
Non mais
temps.
Il est intelligent, il sait faire de la com. Merci Flo. La une de Rotten sans flamme ce soir sur RMC en direct de la brasserie Flora dans le 9e. L'équipe de France, faut-il accepter le déséquilibre? 32-16 pour en débattre avec nous, Jérôme.
Mais pour moi c'est un faux sujet. Je vais te dire pourquoi, parce que pour moi, connaissant Didier Deschamps et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit Manu qui a joué avec lui et Souley qui l'a eu comme moi comme entraîneur, on connaît la politique de Didier. Pourtant, Soulet, il l'a eu à peu près à 8-10 ans après moi. Tu vois.
Ouais,
donc,
Soulet, tu l'as eu 2010.
Exactement. Mais on sait comment Didier fonctionne et comment il arrive à faire gagner ses équipes. De quelle fonction, comment il arrive à les faire jouer. Et ce qui est sûr, c'est que Didier Deschamps, c'est mal le connaître, de penser qu'il est capable d'accepter un déséquilibre dans ses équipes. Jamais de la vie, ça arrivera. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas parce qu'il met 4 joueurs offensifs, ou 3 joueurs offensifs, ou 3 milieux de terrain, que de toute façon, l'animation offensive, il la laisse de côté. Il y a des consignes données. On le sait, il est très fort dans l'animation défensive, Didier Deschamps. Ça, c'est une réalité. Et l'animation défensive, il n'y a pas que les défenseurs ou les milieux défensifs. Mmh. Il y a aussi les attaquants ou les milieux offensifs, comment ils se replient à la perte de la balle, comment quelle position ils acceptent et tout ça. Et puis après, il y a la liberté qu'il peut laisser aux attaquants dans l'animation offensive. Mais pour autant, toujours faire attention, parce qu'il est comme ça, il a toujours été comme ça. Il sait que pour gagner... C'est comme ça que ça se passe pour lui. C'est-à-dire que les joueurs offensifs, on sait tous que quand il y a de la liberté, quand il y a la perte de la balle, tu sais exactement ce qu'il faut faire par rapport à tes coéquipiers et ce qu'ils demandent dans le repli défensif. D'accord ? Ça, c'est une certitude. Didier, il ne mettra jamais, parce que dans la forme de déséquilibre, et c'est pour ça que
c'est moins prudent qu'à une époque, Jérôme.
Non, mais c'est pas
factuellement.
Mais arrêtez vos bêtises, c'est pas une question de
prudence. Mais non, Mathieu dit, il est gauche.
Mais la preuve, regarde sur Olysée ce qu'il te dit. Olysée, il retient d'abord son travail défensif. Non, c'est pas de la com. Mais je te dis que c'est pas de la com. Parce que si Olysée, il met 3 buts, bien sûr qu'il va être content. Mais tu sais que, on a joué. C'est pas parce que t'as du talent que t'es obligé de mettre 3 buts à chaque match. Ouais. D'accord? Et d'être très efficace dans tes prises de position, dans tes passes et dans tes dribbles. Des fois, ça arrive, et même aux meilleurs joueurs du monde, que sur un match, il y a un duel sur deux que tu perds. D'accord? Donc si tu restes sur autant d'inefficacité offensive, si t'as pas le repli qu'il faut et la concentration qu'il faut quand tu perds la balle pour accepter cet équilibre d'équipe que Didier veut mettre en place, que tu sois un joueur offensif, un attaquant, un ailier gauche, un ailier droit, un milieu défensif, un latéral gauche, offensif ou pas, un bon contre-attaquant, tu sais que Didier, il va pas accepter le fait que tu t'oublies un petit peu dans ce repli-là. Mmh. Et c'est pour ça que je te dis, continuez à nous dire le déséquilibre, ceci,
c'est pas nous,
cela.
C'est Manu,
il a changé sa politique. Ouais. Moi, je te dis, Didier Deschamps, hier, j'ai entendu, dans l'after, j'ai entendu que Didier, il avait évolué. Avant, il acceptait, il voulait gagner que 1-0. Maintenant, gagner 4-3, ça lui plaît. Mais je te dis que non. Parce qu'il a jamais été, même quand il mettait 3 milieux défensifs avec 4 défenseurs, jamais, on a commencé un match, et je parle sous le contrôle de Soulet aussi, et même avec l'équipe de France dernièrement, et depuis plus de 12 ans, 14 ans même, jamais il t'a dit, les gars, on met un but et après on ferme. Non, ça arrive jamais. Regardez les stats, c'est tout. Regarde comment en 2018 on a gagné la Coupe du Monde.
Tout, regarde, il avait jamais commencé avec 4 offensifs. Voilà. Tu vois ce que
je veux dire. Il l'a déjà fait.
Mais quand moi personnellement, j'ai jamais joué quand Soulard d'échange, il a jamais joué avec 4 attaquants.
Et ben moi je vais te rappeler l'Euro 2016 en France. Le premier match, comment se déroule? Est-ce qu'il y a 4 joueurs offensifs ou pas?
Je crois que c'est un 4-2-3-1 aussi.
Oui, c'est un 4-2-3-1. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'on a été on s'en sort bien en gagnant avec ce but magnifique, rappelle-toi, de Payet contre la Roumanie, d'accord? Derrière, il s'est dit non, ce système-là, ça va pas me correspondre, et là, il a remis un milieu
de football. Le football, il a changé.
En 10 ans, il a changé, d'accord. Bah écoutez, mais je te dis que Didier Deschamps, il a pas évolué lui.
Alors, est-ce qu'il faut accepter ce déséquilibre, Soulet?
Ben, moi, je vais parler en tant que défenseur, tu vois, je vois les choses de l'autre côté, c'est-à-dire que je sais que les attaquants, c'est pas leur métier de défendre. On sait qu'ils défendent très mal, mais même si maintenant le football, comme je te dis, il a changé, parce que on voit avec le Paris Saint-Germain qui arrive à jouer très offensif, et les attaquants réussissent à faire les efforts défensifs, ils arrivent.
Ah, surtout
mais ce n'est pas toutes les équipes qui jouent comme le Paris Saint-Germain. Donc quand tu mets 4 attaquants, là, tu peux créer un déséquilibre. Ça, c'est réel. Ça, on peut pas.
Et ça dépend ce que tu leur proposes, Soulet. C'est là que je suis pas d'accord avec toi. Regarde, tu parles de 4 attaquants de Luis Enrique. Luis Enrique, on est d'accord, il accepte le déséquilibre parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? À la perte de la balle, Luis Enrique. C'est un pressing tout de suite, concentration. Didier Deschamps, il met pas ça en place. C'est pas un pressing à outrance.
Est-ce que tu sais que s'il a pas mis ça en place? C'est ça la question.
Je sais pas, on regarde les matchs. Tu regardes les matchs comme moi.
Ouais, mais est-ce que tu as vu majeur, c'est pas les mêmes joueurs, Jérôme.
Mais arrêtez vos bêtises avec vos tes équipes.
Ben oui.
Mais ça, c'est du broyage de cerveau. Ben, arrêtez.
Si, justement, c'est les mêmes joueurs. Hein.
Ah non.
Là, t'as Dembélé, t'as Doué, t'as Barcola.
Ah, mais il y a un changement majeur.
Non, le changement majeur. Et qui te dit qu'en 4-2-3-1, l'équipe de France aura un déséquilibre?
Eh oui. Voilà. Merci, Manu.
Je vois l'Angleterre jouer. Il n'y a pas de déséquilibre avec les Anglais en 4-2-3-1.
Bah, c'est factuel.
Pourquoi nous, on serait une exception encore?
Parce que ça fait 6 mois qu'on joue comme ça.
À partir du moment où les joueurs à la perte du ballon ne répondent pas justement à leurs responsabilités, évidemment, t'as un déséquilibre. Là, t'es pas obligé de jouer avec 4 attaquants. Exactement. Tu peux jouer même avec 5 ou 2 attaquants si les
pourquoi
joueurs.
Pourquoi on encaisse des buts contre tout le monde depuis 6 mois alors?
Parce qu'on joue tellement haut, on est tellement sûr de notre potentiel offensif et que les adversaires nous craignent tellement à ce niveau-là qu'on leur offre souvent des espaces dans notre dos et souvent des 1 contre 1 sur le plan défensif. Et c'est là où moi je dis que le déséquilibre, il vient pas de ça sur le plan tactique, de fait de jouer avec 4 attaquants. Le déséquilibre pour moi, si on peut un peu parler d'un déséquilibre, mais j'y crois pas, sincèrement, c'est que à la perte du ballon, comment on va se comporter avec et sans ballon. Et moi, je trouve qu'on n'a pas aujourd'hui suffisamment de garanties sur le plan défensif pour pouvoir assumer le 1 contre 1 dans l'espace.
Ouais.
Il y a quelques joueurs qui me posent des doutes.
Même si on a 2 défenseurs centraux qui font partie des meilleurs du monde et qui sont très forts dans cet exercice.
Oui, mais regarde les difficultés qu'on a eues lors des dommages qu'il y a aux États-Unis récemment l'équipe de France. Si tu parles justement des équilibres défensifs, moi j'ai vu Mbappé faire un repli devant la surface de réparation de l'équipe de France, récupérer des ballons dans la surface. Si les mecs jouent le jeu, il n'y aura pas de déséquilibre. Dans le jeu pratiqué par l'équipe de France où on aura souvent la possession de balle et souvent on va investir le camp de l'adversaire, il faudra faire très attention à la perte du ballon parce que c'est toujours comme ça qu'on a été en difficulté. Côte d'Ivoire, les équipes qu'on a rencontrées.
L'Irlande du Nord, on prend un but contre l'Irlande du Nord.
Mais c'est pas un problème.
T'as le droit de prendre un but,
on vient te le dire. Je te pose la question. Quand tu concèdes des occasions, comme c'est le cas contre l'Irlande du Nord, contre la Côte d'Ivoire, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas existé, ils ont joué dans leur camp. D'accord.
On a perdu, quand même.
Est-ce que c'est la faute à ce déséquilibre ou plus à des erreurs individuelles, à des défenseurs qui font des erreurs?
Je pense que c'était plus des erreurs.
Bah voilà.
Je pense que c'était des erreurs. Après, le déséquilibre peut être assumé, hein. Tu sais, seulement si le pressing est collectif, si les joueurs acceptent de faire les replis défensifs ensemble. Et s'ils ont dans cette mentalité de vouloir faire les efforts, après il n'y aura pas de déséquilibre. Maintenant, est-ce que les joueurs, dans leur tête, ils sont prêts à souffrir, entre guillemets, à faire ces replis défensifs? Et demain, si les joueurs ils font tous le repli défensif, il n'y aura pas de déséquilibre.
C'est ce qu'on te dit. Et de toute façon, Deschamps, je vais te dire, à part Kylian Mbappé, parce qu'on l'a vu, et Manu, ça fait plus longtemps que saoulé qu'on commente les matchs et qu'on les voit. Didier Deschamps, Kylian Mbappé, il est dans le confort et des trucs, il doit en faire plus, on est d'accord, mais il accepte plus ou moins, et c'est pour ça qu'il l'a recentré.
Bah oui.
Et tu le mets plus sur un côté,
bah
parce qu'il accepte que par moment Kylian il s'oublie et il fait moins d'efforts. On le constate avec le Real, on l'a constaté au PSG, pourquoi Luis Enrique, il s'est chopé avec lui et que ça fait une séquence incroyable sur son doc.
Donc tu défends
c'est là-dessus. Donc le je te dis pas que il doit fonctionner comme ça, mais Kylian, t'es pas à l'abri qu'il te lâche au bout d'un moment. Par contre les autres, je peux te dire, ballon d'or ou pas ballon d'or, la position, que ça soit Doué, Barcola à gauche, que ça soit Dembélé dans l'axe ou à droite, que ça soit Olise, pareil. Je peux te dire, ces mecs-là, ils ont pas intérêt à s'oublier. Bah, parce que s'ils s'oublient, je le connais, Didier, il va en retirer un des quatre de devant.
Et voilà, bah c'est la crainte.
Et il va mettre un milieu de terrain.
Et voilà.
C'est là où moi je veux en venir. C'est que l'équipe de France, quand elle était performante, elle a eu des stars, des très grands joueurs, mais il y a aussi des joueurs qui assumaient un autre rôle. Celui de replacer un petit peu certains joueurs lorsqu'il y avait des manquements sur le terrain. À notre époque avec Zizou, il y avait certains joueurs qui n'hésitaient pas à lui dire ce qu'il fallait faire dans le replacement, même si la plupart du temps on n'avait pas besoin de le faire parce qu'il le faisait automatiquement.
Manu Petit par exemple?
Non, mais aujourd'hui dans l'équipe de France actuelle, qui est en mesure d'haranguer les joueurs au milieu ou défensivement?
Pas Tchouaméni parce qu'il regarde ses chaussures.
Ben je te pose la question parce que moi je le vois jamais.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il y a des statuts, Tchouaméni va pas se permettre de dire à Mbappé ou à Olysée.
Tchouaméni déjà il se concentre sur le fait de pas perdre le ballon.
C'est pas parce qu'il y a des statuts, c'est que est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont investis de ça? J'ai rarement vu une grande communication au sein de l'équipe de France ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai envie de voir des mecs qui prennent ce leadership-là parce que c'est important.
Tu voudrais voir qui alors? Les défenseurs centraux? Tu voudrais voir Tchouaméni ou Rabiot?
Bah, moi, je l'ai dit déjà sur Saliba.
Je pense que Rabiot,
je l'ai dit déjà sur Saliba avec l'équipe d'Arsenal. Je trouve que il brille surtout par son silence vocal. et qu'on a besoin, contrairement à Gabriel qui n'hésite pas à haranguer ses coéquipiers, à les replacer, même des fois à leur envoyer un taquet dans la tête verbalement, Saliba, il est toujours muet, il parle jamais. Et puis en mécano, c'est pareil. Au milieu de terrain, c'est pareil. Tous les joueurs que l'on a, personne ne parle.
Sur cet aspect-là, je trouve un peu dur.
Le seul, là, Manu, où je suis d'accord avec toi, c'est que, et Benoît est saoulé, le seul qui peut le faire derrière, c'est Maignan, mais c'est le gardien, donc c'est compliqué. Et en effet.
T'as besoin de ça.
Après, et c'est pour ça que Deschamps, en fait, il met des taquets, pas des taquets, mais en termes de com', il insiste sur le repli, sur le travail d'Olise, sur le travail de Dembélé, parce que, tant qu'ils vont le faire, si tu veux, c'est pour montrer aux autres, hé, les gars, il va falloir le faire aussi. Parce que sur le terrain, peut-être que, comme le dit, à part Rabiot, je pense qu'il est capable de le faire au bout d'un moment. Mais ça dépend comment lui il se sent, parce que c'est toujours pareil. Un joueur leader sur le terrain, un joueur leader par la parole.
Il y a une façon de le dire aussi.
Non, mais déjà, tu te concentres avant de parler et de donner des leçons aux autres. Crédible. Déjà, tu te concentres sur tes performances. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, et c'est pas méchant ce que je dis, mais quand Tchouaméni, parce que Tchouaméni, il a beau nous montrer qu'il est sûr de sa force, qu'il est très confiant et tout ça, t'en fais pas qu'il se rend compte que ses performances, elles sont pas toujours à la hauteur. Donc, bien sûr, que lui déjà il va se concentrer sur ses perfs individuels avant de pouvoir dire à Mbappé ou à Dembélé ou à Olise ou aux autres, hé les gars, revenez, calmez-vous. Koundé, regarde Koundé, les difficultés de Koundé, tout le monde est unanime pour dire que Koundé aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup d'interrogations sur ses performances. Et ben c'est pareil, Koundé, il pourrait avoir ce statut-là. Mais aujourd'hui, il préfère se concentrer déjà sur son boulot avant de donner des leçons aux autres.
Après il y a, on l'a vu récemment dans lors de la dernière interview de Ousmane Dembélé qui disait que s'ils veulent aller
dans
au
Rotten
bout,
sans flamme d'ailleurs.
C'était dans Rotten sans flamme voilà.
Il y a qu'une émission.
Que s'ils veulent aller au bout avec ce système-là, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Il faut que tout le monde attaque, tout le monde défende.
Ouais.
Certes, c'est vrai que c'est un offensif. Moi, je préférais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Manu, en tant que défenseur, ça doit être le rôle d'un défenseur de prendre cette parole, d'aller dire à un offensif, je te dis au hasard, Mbappé,
du ballon.
Parce que le défenseur, il a plus la vision de jeu quand il est derrière.
Oui.
Mais là, si c'est un joueur comme Ousmane Dembélé qui le dit aussi, qui fait passer son message, ça peut donner de la confiance aussi au défenseur pour qu'il puisse prendre cette parole.
Ouais. Toi qui étais défenseur, là, la question de statut s'oublie une fois qu'on est sur le terrain.
Moi, sur le terrain,
peu importe statut, le statut du gars qui est devant toi, tu lui dis.
Il n'y a plus de statut sur le terrain. On est une équipe. On est là pour gagner. On tire dans le même sens.
Tu penses que Saliba va crier sur Mbappé pour lui dire remplacer?
Bien sûr. Il y a une façon de crier sur les gens. Si tu leur parles mal, évidemment que le mec, il n'a pas besoin d'avoir un statut pour mal le prendre.
Exactement.
C'est bon, ça a une façon de créer sur les gens.
Mais évidemment.
Kylian, s'il te plaît.
Non, mais il n'y a pas de s'il te plaît.
Des fois, on
sait tous comment faire pour énerver quelqu'un quand tu t'adresses à quelqu'un.
Vaut mieux éviter d'insulter.
Mais on l'avait vu, je crois, c'était lors de la dernière Coupe du Monde où Paul Pogba aussi avait.
Il avait bougé tout le monde.
Ouais, exactement.
Je m'en rappelle plus, c'était qui là.
Accueillons Anthony, supporter de l'équipe de France qui a composé le 32-16 pour participer à Rotten sans flamme.
Salut Anthony.
Hey, salut tout le monde, vous allez bien?
Comment ça va, Anthony?
Ça va, je suis à la salle de sport, donc ça va très bien.
Bon, avec ton accent, tu dois être supporter de l'OM.
Ouais, c'est pour ça d'ailleurs. Merci.
Ouais, je suis à Paris, il fait froid.
On t'embrasse. On est à Paris,
il fait froid.
On a les deux étoiles là sur le cœur, on t'embrasse.
Non, c'est bonne guerre, on l'a mérité.
Ah, oh, c'est bonne guerre, c'est le back to back.
C'est ça.
Bon, écoute, on va parler de l'équipe de France, Anthony, comme ça va te redonner de la confiance.
Ça va faire un peu de bien.
Exactement. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de notre équipe? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on accepte un déséquilibre? Moi, je suis pas d'accord, Manu aussi, mais.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que, pour avoir vu Deschamps pas mal, quand même, entraîner nos équipes et tout, il met souvent. J'ai pas envie de dire pour faire plaisir parce que c'est trop facile, mais contre les équipes plus faibles, 4 attaquants, mais dès que c'est du sérieux en face, il revient très très vite. Je sais plus, c'est la dernière Coupe du Monde ou c'est pareil, il a commencé avec 4 attaquants et puis de suite, dès que c'est sérieux, il a remis un milieu en plus. Et je pense que ça va être la même chose. C'est-à-dire que là, quand on va jouer Sénégal, je suis persuadé que Doué va sortir et qu'il y aura un milieu en plus pour renforcer, parce que Sénégal, il faut pas oublier que c'est une très 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 forte équipe.
Ouais. Puissante, forte, technique. Merci Anto.
Ça fait peur à personne.
Ah, mais moi, je suis d'accord.
Ça fait plaisir à Souley.
Mon meilleur ami est sénégalais. Je suis obligé de suivre avec lui. Je sais que t'es
Par amitié.
Non. Merci. Après, je le vois. Tu vois, tu es obligé de. Ils ont gagné la CAN encore là. Ils sont très très forts. Mais après, quand on va jouer contre la Norvège et l'Irak, on pourra se permettre d'avoir quatre offensifs. Mais je pense que Deschamps, il a toujours opté pour le côté très équilibré, faire attention. Oui. On a vu avec Monaco en 2004, avec Marseille en 2010, mais il faut dire la vérité, on gagnait, mais on se faisait un peu chier. C'est la marque Dédé, quoi.
Et pour aller plus loin avec toi, Anthony, sur l'analyse, moi, je vais te dire, sur le dernier match, alors les matchs de préparation, bien sûr qu'il faut en prendre et en laisser, la préparation, le côté physique, la confiance des joueurs, se remettre dans le bain, c'est pas facile, et moi, je veux pas les juger sur leur match contre l'Irlande du Nord, parce que, bon, le match était pas incroyable. Mais n'empêche que, dans sa façon de voir les choses, Didier, je te dis que le match de Douai, qui avec le ballon est pas inintéressant, tu vois, il a été pas aussi bon que Olysée, ouais. Mais dans le secteur offensif, dans les quatre offensifs, c'est le deuxième meilleur joueur de ce match-là. Ouais. Je te dis juste que quand tu vois Doué, comment il fonctionne quand il joue sur un côté, alors que c'est très rare au PSG, il joue jamais à gauche comme ça, ce serait pas étonnant qu'il préfère un Barcola qui lui est habitué,
ça sera des sujets avant,
si tu veux, à faire les allers-retours, à défendre avec Théo Hernandez, parce qu'apparemment c'est Théo Hernandez qui va être titulaire. Je te dis qu'il va préférer dans un premier temps les courses et le repli et la vitesse de Barcola plutôt que l'aisance technique d'un Doué.
Merci à Anthony qui est venu au 32-16. Tu rappelles quand tu veux. On rappelle également le match France-Sénégal mardi à suivre sur RMC, évidemment. Et dans un instant, on va ouvrir un grand procès. Et oui, Souleymane Diawara est en colère. On va ouvrir le procès de tous ceux qui pensent qu'une nation africaine ne peut pas remporter cette Coupe du Monde. Ah, 18h26, c'est le moment du jeu. Jérôme, la prime de match RMC. Magnifique concept, 500 euros rajoutés à la cagnotte à chaque but marqué dans la Coupe du Monde.
Ah ouais.
Elle s'élève pour l'instant à 32 500 euros et vous avez 10 minutes pour envoyer but au 732-16. But au 732-16. Manu prend son téléphone.
C'est tout droit.
Ouais. Il envoie but tout de suite.
32 000, ouais.
Vous vous inscrivez et si on vous appelle, vous donnez le montant exact de la cagnotte.
Vous pouvez rajouter but contre le Sénégal.
Et vous remportez en ce moment 32 500 euros grâce à RMC. Allez, dans un instant, le procès. On est en direct de la brasserie Flora, en plein cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, sur le Grand Boulevard. Bravo. Avec Souley Diawara, Manu Petit, Jérôme Rotten. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC. On est bien dans Rotten sans flamme. C'est la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme du soir avec Manu Petit, avec Souley Diawara, avec Benoît Boutron, bien sûr, dans 15 minutes. Le Allô Jérôme.
On va tout savoir du nouveau coach du RC Lens, l'allemand Dino Topmöller, grâce au consultant Bein Sport Patrick Guillaume qui sera avec nous.
L'excellent. Guillaume, on est content de l'accueillir, mais avant, on va faire un bon procès.
Dans un instant, le procès autour des nations africaines.
Et surtout à 19h.
À 19h, invité exceptionnel, Paul Pogba, invité de Rotten sans flamme sur tous les sujets, l'équipe de France, Mbappé, Dembélé, Deschamps sont l'avenir. Ne loupez pas ce grand moment.
Il va nous dire que c'est tout droit contre le Sénégal.
Exactement.
Je suis sûr.
Filons aux États-Unis, retrouver Nicolas Pelletier qui est à Los Angeles. Salut Nico.
Ah oui, là.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Nico.
Eh oui Nico, l'entrée en lice des Américains ce soir dans leur Coupe du Monde la nuit prochaine. États-Unis, Paraguay. Les Américains entraînés par Mauricio Pochettino. 3h du matin, heure française. Est-ce qu'ils sont prêts? Ces joueurs américains alors.
Une team USA qui se prépare depuis plusieurs semaines dans son camp de base maintenant au sud de Los Angeles où nous étions mercredi. On a notamment rencontré Timothy Weah qui nous parlait de son excitation de ce premier match sur le sol américain dans son pays. Et même si l'on sent très peu de ferveur ici à Los Angeles autour de cette rencontre, Mauricio Pochettino, le sélectionneur de la team USA, estime que ce premier match est capital pour créer un engouement.
We need to play with passion. We need to win games.
Nous devons jouer avec passion. Nous devons gagner des matchs, c'est très important, mais il faut avant tout jouer avec passion pour rendre les fans fiers de ce qu'ils voient sur le terrain. Je pense qu'il faut créer cette relation émotionnelle et ensuite vous ferez le reste pour encourager les gens à célébrer. L'important, c'est de gagner et si nous voulons gagner, nous avons besoin du soutien de nos supporters. Mais je sais que nos fans seront derrière l'équipe.
Alors pour tout vous dire, le stade ne sera peut-être pas plein ce soir et on a longtemps cherché dans les rues de la Cité des Anges pour trouver des fans de soccer, ça existe. Les autres, vous allez l'entendre, on devine très rapidement que le football, ce n'est pas leur première passion.
Je n'y connais rien, mais j'ai hâte de regarder et
d'apprendre. I'm saying I'm rooting for USA.
Ce que je veux dire, c'est que je soutiens les États-Unis. Je trouve ça sympa parce que ça rassemble toute la ville. Tout le monde est sympa. La rivalité est mise de côté. Everybody's
friendly. Je pense que ça ne devrait pas être ici car notre président est quelqu'un d'horrible et que ça devrait être dans un autre pays où le dirigeant est quelqu'un de bien.
Et il faut se lever cette nuit à 3h du matin pour regarder ce match, pour écouter RMC et écouter ce match entre les États-Unis et le Paraguay. Pour une seule chose, c'est voir le stade de Los Angeles qui risque de marquer les esprits. C'est sûrement le plus beau stade de cette compétition avec un écran à 360 degrés au-dessus des tribunes. C'est vraiment spectaculaire. J'ai pu le visiter hier et ça marque vraiment les esprits. Donc regardez ce match entre les États-Unis et le Paraguay.
Merci Nico. 3h du matin, États-Unis, Paraguay à suivre sur RMC. Tout de suite le procès.
RMC, Roten sans flamme.
Plusieurs fois, il fait des passements de jambes. Ces trucs techniques, je vais pas passer au ralenti devant toute la terre, moi. Non. Donc je l'ai averti. Je l'ai regardé, je lui ai dit une fois, je suis pas ton fils, moi. Je suis pas avec moi.
Le procès de Roten sans flamme.
Ah, tu parlais de qui, là? Ah, ça marche toujours. De Cristiano Ronaldo. Ah. Un crack.
Il nous a mis la misère.
Ouais. Bon, il a fini avec la cheville dans la boîte à gants. Hein.
Ouais. Cristiano Ronaldo. Doublé, hein, faut pas oublier.
Ah, oui, c'est vrai.
Éliminé.
Bon, c'est comme ça. Alors, parlons donc des nations africaines sur cette Coupe du Monde. Est-ce que l'exploit du Maroc sera réédité? Première nation africaine à atteindre les demi-finales, c'était là, il y a 4 ans, en 2022.
C'est pas ta question, hein.
10 nations africaines au départ.
C'est pas une demi-finale. Tu
l'as pas une demi-finale.
Tu vois une équipe
le
africaine
thème
vainqueur.
Le procès ce soir, c'est le procès de tous ceux qui pensent qu'une nation africaine ne peut pas remporter cette Coupe du Monde.
Cette Coupe du Monde.
Voilà, un homme est bien. En colère, Souleymane Diawara, international sénégalais.
Cette Coupe du Monde.
Non, pas du tout.
Comment j'avais compris que...
Toutes les notes que t'as faites, tu vas revenir sur tout ce que t'as dit.
Bah, Souley a toutes ses notes. On a deux avocats.
Vole-lui ses notes.
Jérôme Rotten, bonsoir. Emmanu Petit, bonsoir.
On a tout dans la tête. Bonsoir à tous.
Et c'est Ibrahim qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Ibrahim.
Salut tout le monde.
Salut.
Sois le bienvenu.
Ibrahim, t'es d'où?
Merci. Comment?
Tu es d'où, Ibrahim?
De Lyon, moi, je suis de Lyon.
De Lyon, bon.
Alors, Souley, vas-y. Secoue un peu Manu Petit et Jérôme Bretagne. Prouve-leur qu'une nation africaine peut remporter cette Coupe du Monde.
Avec conviction, s'il te plaît.
Avec conviction.
Allez, dis-nous que le Cap-Vert va être champion du monde.
Non. Moi, je suis là pour justement pour.
Oui.
Contrer.
Vas-y, contre nous alors. Alors contre nous.
Non, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens pensent que. Une équipe. Là, vous les voyez pas, ils sont en train de faire le fou. Non, ça c'est pas rame, ça, c'est que rame. Juste. Moi, ça me fait chier d'entendre qu'une équipe africaine ne peut pas gagner une Coupe du Monde.
Sept Coupes du Monde.
Je suis bon.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, on pouvait le penser. Maintenant, tout a changé dans le football africain. C'est-à-dire, avant, on était beaucoup pollué par. Les primes de match manquant, la logistique qui est mal gérée, les tenues qui sont pas prêtes, il y a plein de choses qui entachent ta concentration ou la préparation de match. Mais là maintenant en 2026, maintenant il y a plus tous ces problèmes de primes, de logistique, des tenues comme je disais avant. C'est que on est en 2026, il y a plus tous ces trucs qui peuvent te pourrir la vie, pardon. Et rater ta Coupe du Monde. Maintenant, tu regardes l'équipe du Sénégal, l'équipe du Maroc, qui avait pas d'infrastructure comme les Européens, qui avait pas le calendrier comme les Européens, parce que les équipes africaines, il y a aussi cette CAN aussi, qui bouffe beaucoup d'énergie mentalement, physiquement. Maintenant, on arrive à gérer tout ça. Le niveau des joueurs africains a évolué. Avant, il n'y avait pas de joueurs qui jouaient dans les plus grands clubs d'Europe, même du monde. Les équipes nationales africaines, maintenant, jouent contre les pays européens, jouent contre des Sud-Américains, jouent contre les meilleures nations. Le niveau du football africain a nettement évolué. Quand vous regardez encore le Paris Saint-Germain, je sais que je parle trop, mais j'ai pas encore
bravo,
fini.
Bravo, vous l'étiez brillant.
Le Paris Saint-Germain qui compte des joueurs comme Hakimi, qui est pour moi le meilleur latéral, qui a le petit Mbaye, même s'il a pas beaucoup joué, fait partie de cet effectif. Je te parle pas encore des autres parce que sinon ça va être trop long. voilà, les équipes ont évolué. Ouais. Le niveau africain, le football africain a évolué. Après, la dernière Coupe du Monde, on a vu avec le manque de structure que soi-disant que les Africains n'ont pas, on a vu que le Maroc a été en demi-finale.
Tout à fait.
Qui peut me dire ici que, avec le manque de structure, une équipe comme le Maroc peut aller en demi-finale? Maintenant, toutes les équipes, et voilà. Je vais parler plus du Sénégal parce que je suis sénégalais. Bon. Ils ont des infrastructures comme Clairefontaine.
Bravo, Souley, tu les as mouchés avant même qu'ils parlent. Parole à la défense, Jérôme Roten.
Non, mais
on vous demande de l'efficacité parce que lui a été brillant, non, mais... il était tout seul face à vous.
Non, mais moi je suis pas en train de te dire que les pays africains ne peuvent pas exister dans cette Coupe du Monde. Surtout après la dernière Coupe du Monde au Qatar, on a vu que le Maroc était pas si loin que ça. Ils sont arrivés en demi-finale. Mais c'est pas la première année qu'une équipe africaine arrive en demi-finale de la Coupe du Monde.
C'est la première fois.
C'était la première fois. C'était le quart de finale. Rappelle-toi, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Ghana aussi. Ouais, le Ghana. Il y a eu des équipes qui ont existé en effet. Il y a eu le Nigeria aussi. Rappelle-toi aux États-Unis avec en 94. Donc ça commence à remonter. Bien sûr que le continent africain est aujourd'hui d'autant plus respecté. Parce que il y a, comme l'a dit Souley, il y a des équipes, il y a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Il y a surtout des structures et des infrastructures. Là, je parle sous le contrôle de Souley, qui sont vraiment à la hauteur des plus grandes nations au monde. Ça, c'est une certitude. Ils ont passé un cap, ils ont progressé. Maintenant, est-ce que c'est grave de dire que sur cette Coupe du Monde, et c'est pour ça que je rejoins Manu, que sur cette Coupe, je sais ce qu'il pense, que sur cette Coupe du Monde, c'est difficile avant le coup de nous dire, tiens. Il y a une équipe africaine qui va gagner la Coupe du Monde.
Non, ça va. J'ai pas dit ça non plus.
T'as dit que c'est pas impossible.
Comme les Pays-Bas, c'est pas impossible de gagner la Coupe du Monde. Comme l'Allemagne, c'est pas impossible. Mais ils ont pas des équipes avant le coup, si tu veux. À dire,
tu les mets pas dans
y va
favoris,
pour
quoi.
Gagner la Coupe du Monde.
Okay.
Les favoris.
Le Sénégal, ils l'ont dit.
Les favoris, moi je veux bien, mais toutes les équipes le disent. Même aujourd'hui, le Brésil, tout ce que tu veux, les équipes, elles veulent gagner la Coupe du Monde. Et les équipes africaines, elles ont le droit de rêver.
Alors.
Moi je dis juste qu'il y a des équipes avant le coup qui sont bien plus armées.
Okay.
Et c'est des équipes plutôt européennes que sud-américaines, africaines sur le continent asiatique. Je trouve que on a des équipes qui sont bien plus fortes et c'est pour moi compliqué qu'une équipe africaine aujourd'hui arrive à déjouer les pronostics et à se hisser en finale et à gagner la Coupe du Monde.
Manu.
Que rajouter de plus que ce que vient de dire Jérôme ? Je m'inscris parfaitement dans ce qu'il vient de dire. Moi, je dirais que tôt ou tard, une équipe africaine gagnera la Coupe du Monde. Pour moi, c'est prématuré sur cette Coupe du Monde-là. Je suis complètement d'accord avec toi, Soulé, quand tu dis que le continent a vachement évolué dans le bon sens, pas simplement dans la formation et les infrastructures, sur l'émancipation aussi des jeunes, de la jeunesse africaine. Mais malgré tout, tu t'aperçois aussi qu'il leur manque quand même un wagon qui est important aujourd'hui pour pouvoir rivaliser avec les grandes nations de football dans une Coupe du Monde. Où est-ce que c'est la post-formation. Généralement, la majorité des joueurs talentueux africains, de n'importe quel pays africain, dès qu'ils commencent à être un peu bons, ils partent, ils vont en Europe. Moi, je pense que le dernier wagon, justement, à raccrocher au train africain, c'est de structurer au niveau professionnel, justement, pas mal de pays pour que les talents puissent rester à l'intérieur, qu'ils puissent, justement, s'émanciper avec. C'est là où moi j'ai un petit regret, parce que je suis le premier à dire que je suis en admiration sur les qualités du football africain. Mais quand tu en vois de plus en plus, de génération après génération, un nombre incalculable d'Africains en France, ils se formalisent en fait aux Jeux européens. Bon. Ils perdent un petit peu de leur spontanéité. Alors. Africaine. Quand tu joues dans la rue, tu sais, t'improvises des matchs comme ça. Et c'est là où je veux en venir, le jour où le continent africain, et je suis persuadé qu'ils le feront, parce que je suis d'accord avec toi. Le Maroc, certains pays se sont dotés d'infrastructures incroyables. Qui sera au même niveau que beaucoup de pays européens. Je pense que le reste, c'est ça. C'est professionnaliser justement dès la base pour que ces jeunes joueurs puissent rester au pays. Et ce jour-là, si ça arrive, je pense qu'il y aura de bien meilleures chances pour une équipe africaine de gagner la Coupe du Monde.
Mais pas
Ibrahim,
sur la Coupe du Monde, hein.
Ibrahim, non, c'est là, désolé, on est très en retard. Qui remporte ce procès, Ibrahim?
Pour moi, c'est Souley. Parce que au final, tous les joueurs africains, que ce soit le Sénégal ou le Maroc, c'est des joueurs formés en Europe. Ça fait qu'on dit football africain, ok, mais les mecs, ils jouent tous en Europe.
C'est pour ça, ça a changé comparé à avant. Et on aime le foot aussi, pourquoi ? Parce que le foot est rempli de surprises, donc on veut y croire. On aime le foot parce que dans le foot, il y a des surprises.
Bravo,
donc on veut y croire,
mais
je suis du côté de l'œil, plus tard.
Bon, merci. Verdict sans appel, merci Ibrahim. À bientôt, tu rappelles quand tu veux.
On croit tous à cette Coupe du Monde. Il peut y avoir des miracles, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est difficile de voir le Maroc, le Sénégal gagner la Coupe du Monde.
On ne sera pas loin, t'inquiète pas. Allez, dans un instant, allô Jérôme, Patrick Guillou.
Il vient de perdre deux joueurs importants.
Consultant BeIN Sport sera avec nous. On vous présente Dino Topmöller, le nouveau coach du RC Lens. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
C'est toujours dans Roten sans flamme. On finit la première heure d'un Roten sans flamme exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'on est en direct du Flora dans le 9e arrondissement, une brasserie dans les grands boulevards sur Paris. On est avec Benoît Boutron, avec Soulé Diawara et avec Manu Petit. Dans un instant, on va recevoir Patrick Guillou pour nous parler de l'actualité du
nouveau
foot
et du nouveau coach de Lens, Top Moller. Et puis à 19h, un invité exceptionnel, Paul Pogba, qui sera avec nous dans Roten sans flamme.
Il faut être là, il faut être là. Appelez vos amis, ça va y aller. Hein.
Allez, c'est parti pour Allô Jérôme.
C'est tout droit.
RMC, Roten sans flamme.
Allô Jérôme.
On connaît donc le successeur de Pierre Sage à Lens. Lens a terminé deuxième de Ligue 1. Lens va disputer la Ligue des Champions. Et Lens a fait confiance à Dino Topmöller, un coach allemand de 45 ans qui reste sur une expérience de 2 années et demie à Francfort. Et c'est un coach qui sait faire progresser les joueurs. On l'a vu avec Ekitike, avec Colomwani, avec Willian Pacho. On en parle avec le vrai spécialiste en France de la Bundesliga. Ah oui. Consultant de BeIN Sport, Patrick Guillou qui est là, Jérôme.
Salut Patrick.
Allô, allô, allez.
Ça va Patrick.
Bienvenue.
Ça va. J'espère que mon intervention, ça ne sera pas une grosse catastrophe.
Non.
Ça, nous, ça prend les moyens de vous faire parler.
Patrick, ça sera mieux que certains de tes matchs. T'en fais pas.
Bon, qui est ce coach alors, Patrick ?
Mais toi, comme beaucoup de joueurs, quand tu jouais contre moi, tu passais de l'autre côté.
C'est vrai,
voilà, bien répondu.
Ouais, c'est vrai.
Qui est ce Dino Topmöller, Patrick, alors ?
Alors, c'est un entraîneur dynamique, jeune, 45 ans, qui a dû couper deux cordons, le cordon ombilical avec son père, Klaus Topmöller, qui était un grand attaquant et aussi un grand entraîneur, notamment de Leverkusen. Et le deuxième cordon qu'il a dû couper, c'est celui-là de Julian Nagelsmann en tant qu'adjoint à Leipzig et au Bayern. C'est un joueur de foot plutôt de D2 et qui a fait carrière entraîneur-joueur, qui a eu des succès au Luxembourg, qui a été champion avec l'équipe du Luxembourg de Dudelange. Et puis ensuite, il a été dans un premier temps adjoint, quelquefois en Ligue des Champions quand Nagelsmann avait le Covid, notamment à Benfica. Et puis ensuite, qui a trouvé son rythme de croisière parce que Marcus Krösche, le patron de Francfort, lui a témoigné, lui a donné la confiance de tout un club. Et là, il a pu travailler sereinement, il a pu travailler en construisant. C'est un entraîneur polyglotte qui maîtrise bien la langue française. Ah. Qui est proche de ses joueurs, qui est psychologiquement fin, qui cherche la discussion un contre un, qui ne va pas attaquer ses joueurs publiquement. Et après, ce qui est le plus important, c'est que tactiquement, il est plutôt bon, il est plutôt doué. Alors certains diront, oui, mais il n'a pas trouvé la solution défensive des problèmes de Francfort. Mais comme ça a été dit en introduction, dans la progression individuelle de ses joueurs, dans la progression collective, pendant 2 ans et demi, il a fait le job, plus que le job, Europa League, Champions League, un football plaisant, un football offensif. Et puis, quelqu'un qui a l'habitude de venir très tôt au centre d'entraînement, qui a l'habitude de travailler avec beaucoup de minutie, et qui, contrairement aux hommes, et notamment Nagelsmann qui l'a accompagné, est un petit peu plus pragmatique. Il ne cherche pas à trouver et à révolutionner le football. Il arrive aussi, en fonction du club et de la structure, à s'adapter et à s'adopter très certainement à l'environnement lensois.
Patrick, t'en as parlé un petit peu, mais le style, en quel schéma il préfère jouer ? Est-ce qu'il a un schéma préférentiel ? Tu l'as dit, est-ce que c'est un entraîneur qui est vraiment tourné vers l'offensive ?
Oui, normalement, oui, 4-2-3-1 ou 4-3-3 avec beaucoup de joueurs à vocation offensive. Comme beaucoup en Allemagne, cette volonté d'aller presser l'adversaire dans le camp et d'avoir, si c'est un bloc médian, des zones presse bien définies pour ensuite, dans la phase de récupération, dans les zones de récupération, tout de suite passer en transition parce qu'il a le profil de joueur pour ensuite exploser, passer dans le dos de la défense avec Colomoigny, on en a parlé, avec Ekitike, avec d'autres joueurs comme Baoya, des joueurs comme Rizzo Doan pendant quelques mois. Et le problème qu'il a eu, c'est que malgré des animations offensives très plaisantes, très techniques, très, très basées sur le jeu 1-2, appui soutien et je trouve le troisième, il n'a jamais résolu dans la deuxième partie de saison les problèmes défensifs. Et là, il a tâtonné. Pas aidé par sa défense, pas aidé par ses individualités. Et c'est pour ça que je disais qu'il protège ses joueurs au niveau de la communication. Parce que ses joueurs l'ont planté, il faut quand même le dire, hein, Christensen, Robin Kaur, Collins, même Rizzo Doan, même son gardien de but. Et jamais, alors qu'il prenait une ribambelle de but, il a pointé du doigt ses joueurs au niveau de la com externe. Ouais. Il a essayé de trouver des solutions. Il est passé de son schéma à 4 à un schéma à 3, un schéma à 5. Il a essayé de trouver. Il n'a jamais, malheureusement pour lui, trouvé la solution de l'assise défensive. Et après 3 matchs sur la phase retour, il a été écarté par Crochet, alors que tout le monde au club de Francfort en disait le plus grand bien.
Ok, Manu.
Bah en fait, moi, je suis quand même inquiet pour le RC Lens. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec lui, hein, mais de me dire que vu les miracles qu'ils ont fait l'année dernière, notamment sur le marché des transferts avec 3 fois rien, ils ont réussi à décrocher 6 joueurs qui étaient quasiment titulaires et qui ont tous performé durant la saison. En sachant que Sage également a laissé une bonne empreinte au sein du vestiaire, dans quelle mesure ce nouvel entraîneur peut amener une plus-value, parce que la saison qui arrive, championnat et Champions League, en sachant que les finances du RC Lens, ça va pas être porte ouverte. Est-ce que lui, il est intransigeant, exigeant sur le marché des transferts et dans quel état d'esprit tu penses et qu'il arrive à Lens en sachant que c'est quand même une montagne à monter, quoi.
Alors c'est exact, parce que le profil de ce que vient de dire Manu de joueurs entre une équipe de Lens, même s'ils ont fait un brillant parcours en Coupe de France avec la consécration derrière, grosso modo la plupart du temps c'était des matchs à une semaine. Et Manu, Jérôme, vous savez mieux que tout le monde, quand tu joues tous les 3 jours, c'est un autre profil de joueur qu'il te faut que quand tu joues une fois par semaine. Et donc du coup il a cette expérience-là de jouer tous les 3 jours. Il avait un effectif à Francfort très pléthorique. Et il participait au recrutement dans la définition des profils, mais pas dans le recrutement. C'est-à-dire que ça va être à Jean-Louis Lecard de trouver le profil par rapport profils, à ce qu'il veut. Ouais. Voilà. Okay. Mais c'est pas lui qui dira je veux celui-là, si c'est pas celui-là.
Exactement. Ouais.
Voilà. Et donc il y a une autre remarque de Manu sur laquelle je réfléchis et qu'il a raison. L'héritage de Pierre Sage avec la Ligue des Champions, avec le titre, avec des joueurs qui superforment, l'héritage il est lourd pour Dino Topmöller. Mais comme l'héritage de Oliver Glasner à Crystal Palace est lourd pour Pierre Sage quand il va arriver.
Exactement.
L'équipe de Crystal Palace et donc c'est assez similaire comme situation, même si la réponse est, encore une fois, Emmanuel l'a dit, la réponse est dans le domaine financier. Crystal Palace a des moyens que Lens n'aura pas.
Merci beaucoup Patrick Guillou, consultant
BeinSport,
qui est mobilisé sur la Coupe du Monde, tous les matchs de la Coupe du Monde sur BeinSport.
Bon courage avec l'Allemagne, parce que je suis pas sûr que vous allez être champion du monde.
Salut Patrick, merci.
Non, mais un quart de finale serait déjà un exploit pour cette équipe.
Et écoute, voilà. on vous le allez, souhaite de tomber contre nous. Vous le souhaite.
Vous prendrez le même tarif que le Sénégal.
Allez,
excellent.
Allez, je t'embrasse. Tchuss. Merci. Tchuss.
Allez, dans un instant, tchuss. 18h58 sur RMC.
Patrick.
On est à la brasserie Flora, dans le 9e arrondissement de Paris, sur les Grands Boulevards. Et dans un instant, un invité exceptionnel, Paul Pogba, dans Rotten sans flamme.
Il y a vol.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.